Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Lui dit, vous pouvez tout me dire, je connais la jeunesse, on fait des expériences idiotes, on se trouve plus fort que les autres. Il a voulu en prendre plus que les autres, non? Je lui dis, je vous jure que non, que c'est la vérité. C'est la vérité ce que je vous dis. Le médecin lui dit, je vous crois, pardonnez-moi. Et il se retire. Les jours passent. Et un jour, Frédéric est rétabli. Gilles est près de lui. Il lui dit, tu viens de loin, Frédéric lui dit. Merci, mais il faut que tu te débarrasses de cette saleté. Gilles lui dit, c'est déjà fait. Pour me défendre, j'étais obligé, c'est de leur jeter de la poudre au visage. Ça les a aveuglés. Ils se débattaient avec leur barre de fer, et moi je fonçais sur eux avec le couteau. Une fois que je suis débarrassé des miens, je me suis occupé de ceux qui étaient après toi et je t'ai libéré. Eric lui dit, merci. Je lui dis, tu sais la drogue, c'est pour les minus, pas les surhommes. Les surhommes n'ont pas besoin de paradis artificiel parce qu'ils sont forts. Les autres, c'est la faiblesse qui les attire vers les drogues pour leur faire oublier leur nullité et leur vie médiocre. Frédéric lui dit, tu as raison. Nous, notre vie est remplie de ce qu'ils rêvent. J'ai lui dit, ça a tout de même rapporté un peu d'argent avec les 4 ou 5 clients que nous avons eus. Frédéric lui dit, oui, mais ça nous servira à payer le médecin. Il lui dit, mais il nous en restera encore un peu. Frédéric demande, et lycée? Je lui dis, j'ai dit que tu avais une bonne grippe. J'ai fait faire un papier pour le médecin. Et ma famille, elle sait que tu es là. et reste encore quelques jours chez Gilles à se retaper. Ils font chambre à part. Gilles ne veut pas le déranger. Mais il a bien aimé la nuit où ils étaient enlacés. Il a fait semblant de dormir, mais sentait contre lui son odeur, son corps, ses fesses, sa respiration, tout. Et c'était bien. Il se dit que sûrement qu'il s'en est pas aperçu, parce que s'il s'était aperçu qu'il avait pris du plaisir, il l'aurait traité sûrement de pédé et en aurait eu du dégoût. Pourtant, ils ont fait des choses ensemble déjà. Mais c'était fait d'une certaine façon inconsciente. Pendant ce temps, les affaires du grand-père marchent bien. Il a 5 résidences grand standing qui sont déjà construites. Il en reste 12. Rien que pour Paris, c'est beaucoup. Car le prix du loyer dans ces résidences sont très très élevés. Parce qu'il y a tout le confort, comme à l'hôtel, et même mieux qu'à l'hôtel. Car en plus de l'appartement, grand luxe, il y a piscine privée, chauffée, tennis, golf, infirmerie, supérette, salon pour recevoir en dehors de chez soi, une laverie commune, un jardin, un traiteur pour ceux qui veulent qu'on leur prépare à manger, une garderie d'enfants, un service réparation d'épanage, comme la plomberie ou l'électricité, télésurveillance, garde, garage au sous-sol, parking pour les invités. Tout est électrifié. Et c'est de l'électricité qui est faite sur batterie pour la résidence. Pour certaines résidences, il y a une source d'eau qui est sous la résidence et l'eau est prise par la source. Et des fois, c'est de l'eau chaude. La résidence est un monde fermé, comme un navire. Les gens qui habitent sont des gens qui veulent rester chez eux en étant tranquilles. Dans le hall salon, il y a une grande banque avec un concierge comme à l'hôtel. Ça coûte très très cher, mais les gens se sentent en sécurité et entre eux. Les locataires sont surtout des personnes âgées, des hommes d'affaires qui sont de passage à Paris. Ça leur évite d'aller à l'hôtel et comme ça, avec un pied à terre, bien à soi, on peut laisser des choses, c'est mieux qu'à l'hôtel. Bien sûr, la sécurité, le luxe coûte très cher et les gens payent. Auguste n'est propriétaire de ses résidences que des immeubles et pas du terrain. Le terrain appartient à Franblanc qui lui paye et il lui paye un loyer. Suivant les lieux, la résidence doit rester sur le terrain 25 ans comme près de la place de l'Étoile ou 50 ans, pour des endroits moins chics. Après, Franblanc démolit la résidence. Il peut, s'il le désire, reconstruire une autre pour Borch ou lui-même. Ce qu'il fait, qu'Auguste est locataire chez Franblanc et sa location lui permet de gagner de l'argent. Au siège, Franblanc, dans son bureau, Judith lit le dossier Borch que lui a prêté Harold. Elle fait la grimace, ferme le dossier et prend le téléphone. Fait un numéro. Allô, Harold, c'est moi. Vous avez lu le dossier Borch? Je trouve que c'est dangereux. Je vais en parler au président. Ou vous faites-le. Bien, je vais le faire moi-même. Et elle raccroche. Fais un autre numéro. Allô, je suis Judith. Ça va, Martine? Dis, j'aimerais, c'est un rendez-vous avec le président. Oui, le plus vite possible. Merci. Bon, il est libre jeudi entre 15h et 15h20. Ce sera parfait. Vous lui dites que je viendrai. Affaire Borch. Merci. À midi au hall pour déjeuner ensemble. Elle raccroche. Et jeudi, elle sort de son bureau pour aller au bureau du président, qui est deux étages au-dessus. Elle va prendre l'ascenseur. Elle prend l'ascenseur. Arrivée à l'étage, elle sort de l'ascenseur. Là, elle tombe sur l'hôtesse, une grande blonde, dans les 22 ans, très belle, jambes mannequin, tailleur moulant, rouge. Elle lui demande, vous désirez, Judith lui dit, j'ai rendez-vous avec le président à 15h. L'hôtesse lui dit, veuillez me suivre. Et elle suit l'hôtesse qui l'amène à la secrétaire de Gilbert. Elle lui dit, « Madame a rendez-vous à 15h. » Le secrétaire demande, « Et qui est cette dame ?» Judith lui dit, « Comme si vous ne le saviez pas, c'est moi qui vous ai embauché. » Le secrétaire lui dit, « Je suis navré, madame, mais vous savez le protocole. » Et elle tape le nom de Judith. Elle lui dit, « Oui, vous êtes attendue, madame. Merci. » Et l'hôtesse amène la pauvre Judith à la porte du bureau. Pendant ce temps, la secrétaire prévient de son arrivée le président. L'hôtesse appuie sur un bouton. Le bouton vert s'allume. La secrétaire fait entrer Judith et ferme la porte derrière elle. Le président est à son bureau. Il lui dit, veuillez vous asseoir. Et elle va s'asseoir dans un fauteuil face au bureau. Le président lui dit, « Je vous écoute, madame. » Elle lui dit, « Voilà, j'ai demandé à vous parler au sujet du contrat qui nous lie au Borch. Gilbert lui dit, « Je sais que vous n'aimez pas ces gens, et moi non plus, mais leur affaire marche bien. » Et à peine finie leur résidence, elles sont louées. Elle lui dit, « Elles marchent peut-être un peu trop bien, ça peut être dangereux pour nous. Ils prennent trop d'importance. Vous vous rendez compte, 17 résidences, rien que pour Paris, c'est trop. » Et il y a aussi 10 à 20 résidences dans les grandes villes du monde. Voyez, ce qu'ils vont gagner comme argent, c'est dangereux. Gilbert lui dit, dangereux, pourquoi, pour qui? Pas pour nous. D'ailleurs, leurs résidences sont sur nos terrains. Et nous pouvons à tout instant résilier le contrat. Et puis à la fin du bail, l'on peut ne pas le renouveler. Nous pouvons construire ce que nous voulons sur ces terrains libérés. Ce n'est pas nous qui sommes à leur merci, mais eux. À tout instant, ils peuvent être à la porte. Tu dis, vous oubliez les locataires qui voient l'échéance du bail se terminer, peuvent se mettre en association et vouloir interdire la destruction de leur immeuble en disant qu'il est en très bon état. Gilbert lui dit, ces associations de locataires, c'est pour les HLM. Et puis, elles sont organisées par des étrangers ou des Français d'origine étrangère. Plus on leur en donne à ces gens-là, plus ils en veulent. Ils viennent en France sans rien, demandent des aides, puis, pour en avoir plus, se lancent dans des associatives. Mais ces choses n'auront plus cours. Les étrangers n'auront plus le droit de se mettre ou d'appartenir à une association. Les associations n'auront plus le droit de les défendre, de défendre les étrangers plutôt, ou leurs intérêts, qui est au détriment de la France. Une nouvelle loi va se faire à ce sujet. Tu dis, ceci c'est pour les HLM, mais pour nous, les résidences de luxe, c'est autre chose. Il n'y aura que des Français et le chéquier bien rempli. S'ils contestent, nous sommes perdus. Il lui dit, ces personnes sont pour la plupart dans les affaires, ont de l'argent bien placé. Comme toutes les affaires passent par nous, parce que nous sommes le premier groupe au monde, ils n'auront qu'à se tenir tranquilles, autrement ils se retrouveront à la rue, et sans un sou. Alors, elle lui dit, à moins qu'ils s'allient avec Bosch, ils enlèvent leur argent du groupe pour le mettre chez Bosch. Gilbert lui dit, oui, mais nous tenons Bosch. Comme je vous l'ai dit, personne ne peut changer. Ils sont entre nos mains. Elle lui dit, « Bien, puisque vous voyez les choses comme ça, mais je me méfie de ces gens. Et puis cette Carole qui est aussi en affaire avec nous. » Elle lui dit, « Là, vous ne craignez rien. Nous lui mettons des bâtons dans les roues pour l'empêcher de nuire. Nous l'envoyons souvent à Lyon, ville superbe, si l'on veut, et très dangereuse. » Une vraie fosse à serpents. Un jour, à force d'y aller, il lui arrivera quelque chose et ne reviendra plus. Quant à l'autre fille, l'avocate conseil est mise dans un placard, bourrée de travail. Vous voyez, la famille est bien entre nos mains. Judith lui dit, vous êtes vraiment l'élu, vous. Vous réglez les problèmes aussi bien que nous. Il lui demande, qui elle est élue. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit, c'est une façon de dire, vous êtes l'élu parce que vous êtes le fils de votre père, que vous remplacez. Il lui fait, hélas, J'y suis obligée. Vous avez d'autres choses à me dire ? » Elle lui dit non. Presque tout est en ordre, mais évitez de fréquenter ces gens. Il lui dit, je vous le promets. Il se lève, elle se lève et lui dit, merci de m'avoir reçu, monsieur. Il lui dit, tout le plaisir est pour moi. Et elle le quitte. Elle se dit, il a compris ce qu'il doit faire et pense comme nous. C'est presque un Galien Diap. Une fois dans son bureau, elle téléphone à Harold. Allô, Harold, c'est moi. J'ai vu le président. Il fait ce qu'il doit faire. C'est vraiment l'élu. Nous n'avons pas de soucis à nous faire. Absolument pas de soucis à nous faire. Les jours passent. Pendant ce temps, Frédéric est chez Gilles. Il se remet doucement de son accident. Accident si l'on veut. Le médecin continue à le voir. Il fait des prises de sang, voir s'il ne reste rien dans le corps. Il regarde l'estomac, le cerveau, pour voir s'ils n'ont pas été endommagés. Il va passer des radios et des examens dans un laboratoire près de l'immeuble de chez Gilles. Il passe aussi des tests pour voir si tout va bien. Tout semble bien aller, pas de séquelles. Gilles est retourné au lycée et dit que Frédéric est toujours malade et qu'il peut travailler un petit peu chez lui. Alors on lui donne des devoirs pour lui. Frédéric, la journée, étudie ses cours, seul dans sa chambre. Les parents de Frédéric sont surpris qu'ils ne reviennent pas. Mais Gilles leur dit qu'ils ont encore à travailler ensemble. Le lycée ne prévient pas la famille de l'absence de leur petit-fils. C'est un garçon sérieux et il connaît aussi Gilles, qui lui est sérieux. Et puis Frédéric demande des devoirs pour ne pas perdre de temps. C'est la preuve qu'il est sérieux et qu'il dit la vérité. Eric, qui est dans la même école que son frère, mais mal doté, c'est tout juste si on le traite comme le frère de Frédéric. Et on ne cherche pas à s'informer ou à savoir ce que devient Frédéric. On ne demande rien à Eric. Et comme ils n'ont pas les mêmes horaires de cours, ni les mêmes profs, Eric ne peut pas savoir que son frère est au lycée ou non. Et comme les amis de Frédéric n'aiment pas Eric, ne lui parlent pas, ne veulent pas lui poser de questions. Le pauvre type, on le dédaigne, et c'est tout juste si on lui parle. Voilà comment l'absence de Frédéric se fait sans heurts. Les grands-parents pensent qu'il est chez Gilles. Le grand-père n'ose rien dire parce que Gilles est l'ami des Francs-Blancs et que ça fait bien d'avoir un ami des Francs-Blancs. Les jours passent. Un matin, au petit déjeuner, Frédéric dit « Je crois qu'il serait temps que je rentre chez mon grand-père. » Gilles lui demande « Pourquoi ? Tu n'es pas bien avec moi ?» Frédéric lui dit « Si, mais plus je prolonge mon séjour, et plus ce sera difficile de leur expliquer ma présence ici. Et puis je suis guéri. » Tu as tellement de choses à faire. Puis je ne saurai jamais comment te remercier. Gilles lui dit, ne pas me remercier, c'est normal. Nous sommes de la même espèce. Et si je ne le faisais pas, ce serait pas bien. Je me nuirais. Tu rentres quand ? Frédéric lui dit, je ferai comme si je rentrais du lycée. Et qu'est-ce que tu vas leur dire ? Rien. Ou comme tu leur as dit. De toute façon, moins on en dit, mieux c'est. Gilles lui demande. Et ton frère ? Frédéric hausse les épaules. Oh, celui-là, il va sûrement recommencer. Rien ne peut l'arrêter, c'est un fou dangereux à tuer. Je lui dis, c'est ce que nous ferons. Je pense à une chose, si je t'accompagnais, ça aurait été plus simple. Je crois que ton grand-père a du respect pour moi. Frédéric lui dit, oui, tu as raison. Avec toi, il n'osera pas me poser des questions. Il sera heureux de ta venue, parce que pour lui, tu es le lien entre notre famille et les Francs-Blancs. Je lui dis, alors, je viens te chercher et nous rentrons ensemble. Et le soir, après ses cours, Gilles va chez lui chercher Frédéric. Il est dans le couloir qui l'attend.
Tu es prêt ?
Oui.
Qu'est-ce que tu veux amener ?
Mes cours et c'est tout. Il a les vêtements dont lui a donné Gilles. Propre, parce que les siens étaient dans un état impossible. Habillé d'un costume gris et d'une chemise blanche, cravate rouge. Je lui dis, on ne dirait pas que tu as été malade. Tu es même superbe. Allez, on y va. Et ils sortent de l'appartement. Pour aller chez les Borch, ils prennent un taxi.
Cette année,
C'est Gilles qui a payé. Il dit à Frédéric, j'ai encore de l'argent de la vente. Frédéric appuie sur l'interphone. Oui, c'est moi Frédéric. Oh monsieur, entrez. Frédéric dit, il dit toujours ça, comme s'il était heureux de me revoir. Gilles lui dit, il a peut-être un faible pour toi. Frédéric lui dit, ça suffit, j'ai assez de soupirants. Eh ? Ils entrent dans l'allée. Entrent dans l'allée. Ils vont prendre l'ascenseur. Arrivé à l'étage, Frédéric va sonner à la porte de l'appartement. La porte s'est ouverte. C'est le domestique. Bonjour, monsieur. Frédéric pense en riant qu'il va l'embrasser. Il demande, mes parents, grands-parents sont là? Oui, monsieur, au salon. Bien, nous y allons. Et le domestique ferme la porte. Et Frédéric et Gilles vont au salon. Frappe à la porte. Entrez, dit la grand-mère. Ils entrent tous les deux. Frédéric leur dit, bonsoir. Grand-père lui dit, oh, te voilà enfin. Il s'approche d'eux. Il dit, c'est de ma faute, j'avais besoin de lui pour étudier. Le grand-père lui dit, si c'est vous, les choses sont pardonnés. Mais tu es resté bien longtemps chez ton ami. Trop longtemps. Nous sommes fait du souci. Eric lui dit, beaucoup trop de soucis. Eric le regarde avec dédain. La grand-mère leur demande, avez-vous dîné? Frédéric lui dit, non. Elle dit, bien, nous mangerez avec nous. Et la vie reprend. Le lendemain, Frédéric retourne au lycée avec une lettre du médecin de Gilles disant qu'il a eu une grave grippe. Bien sûr, Eric retourne voir Frédéric dans sa chambre. Comme Frédéric a la bénédiction de son grand-père, il voit souvent Gilles après les cours. Ils sortent ensemble, chapardent par-ci par-là et prennent les transports en commun gratuitement. Mais des fois, ils restent chez eux ou vont dans des cinémas. Par la sortie de secours, lorsque les gens sortent, comme les gens sortent, par la sortie de secours, elle est ouverte, ils se faufilent et entrent. Lorsqu'ils sont tranquillement chez Gilles, à se reposer, à discuter. Bien sûr, ils font leurs devoirs ensemble. Et lorsqu'ils ne peuvent se voir, ils sont connectés sur Internet, où chacun des deux a un site, et comme ça, ils peuvent se passer leurs problèmes. Frédéric ne voit que Gilles, et Gilles ne voit que Frédéric. Ils sont constamment ensemble. Et lorsqu'ils ne se voient pas, ils se téléphonent ou se connectent sur Internet. Ils mènent une vie à part les autres, entre eux. Bien sûr, pour Frédéric, il y a sa famille, mais elle ne compte pas pour lui. Son frère n'est qu'une bête féroce à abattre. Il existe encore moins pour lui que les autres. Les jours passent ainsi. L'on peut dire qu'ils sont heureux tous les deux. Mais pas pour Eric, car lui sent de la résistance chez Frédéric. il ne sent plus à lui. Lorsqu'il le possède, il ne le possède pas vraiment. Frédéric est ailleurs et le dédaigne. Et puis il est toujours avec ce sale Gilles. C'est lui qui le rend fort. C'est lui qui lui a pris toutes ses pensées. Ils sont toujours ensemble. Ça le rend malade. Et le grand-père qui ne dit rien. Un après-midi, qu'il est avec Carole dans le studio, après l'amour si l'on veut, il lui dit
« C'est pas bien que mon frère soit toujours avec ce Gilles. Ça fait jaser. »
Elle lui dit « Mais qu'est-ce que ça peut te faire ?»
Il lui répond « C'est mon frère, je veux pas qu'il déshonore la famille. »
Elle lui dit « Malheureusement, ta famille est déjà bien déshonorée avec tout ce qui vous est arrivé. » Il lui dit furieux « Ne dis pas ça !» Puis « Ça te plairait, toi, que Frédéric soit traité de pédé ?»
Elle lui fait « Non, bien sûr. »
Il lui dit « Eh bien, tâche de convaincre le grand-père que ce n'est pas bien que Frédéric soit toujours avec son ami et que ça fait jaser. C'est la vérité. » Tout Paris les voit ensemble, toujours ensemble.
Elle lui dit « Tâcherai, mais tu sais que ton grand-père et moi, nos relations se sont refroidies depuis qu'il sait que nous sommes ensemble et qu'il a des soupçons sur la mort de ton père.
Ça fait beaucoup et ce n'est rien par rapport à ton frère. »
Il lui dit « Mon frère, c'est très grave.
Faut le sauver des griffes de ce pervers de Gilles. »
Elle lui dit « Bien, je verrai. Mais toi, il faudra que tu sois plus sage avec moi. »
Il lui dit « Je te le promets. »
Il l'embrasse
sur la joue et la laisse.
Ève
et s'habille en silence. La porte s'ouvre. C'est le domestique. Bonjour, madame.
Bonjour.
Il ferme la porte. Il lui dit, ils sont au salon. Veuillez me suivre. Elle le suit. Il frappe à la porte du salon. Dit la grand-mère. Domestique ouvre la porte et dit « Madame Carole Borche !» et la laisse passer. Le grand-père se lève et va à elle et lui dit « Quelle surprise de venir vous voir ! Voir deux vieilles personnes abandonnées par la jeunesse !»
Elle lui demande « Eric est absent ?»
Il lui dit « Oui, il est... sorti avec Florence. » Carole parlit et se dit « Le salaud !» Il lui dit « Venez vous asseoir. » Ils vont vers Amélie. Amélie lui dit « Bonsoir Carole, vous êtes très belle. »
Carole lui dit « Merci. »
Et elle s'assoit en face d'eux. La grand-mère demande « Vous désirez boire quelque chose ?»
Elle lui dit « Oui, un bourbon. »
Elle demande « Et toi, Auguste ?» Elle lui dit « Moi aussi. » Elle appuie sur la sonnette pour faire venir le maître d'hôtel. Auguste demande à Carole « Comment vont vos affaires ?»
Elle lui répond « Très bien, merci. Mais ça avance lentement, mais sûrement. Je vais surtout... à Lyon, j'y suis obligé. Cette ville me fait peur. On croise de ces gens dans la rue. J'aimerais pas y vivre. »
Amélie lui dit « Moi non plus. » On frappe à la porte. Amélie dit « Entrez !» C'est le domestique. Elle lui dit « Apportez-nous trois bonbons et des amuse-gueules. »
Bien, madame.
Merci. Les filles se retirent.
Carole dit à Auguste, vous savez, j'ai beaucoup de sentiments pour votre famille, qui est aussi la mienne, à cause de mon mariage avec votre fils. Je suis très attachée à votre famille, et tout ce qui la touche me touche. Auguste lui dit, je vous remercie. Vous nous avez prouvé votre attachement par les sentiments que vous avez avec les membres de notre famille. Elle lui fait, justement, tout ce qui vous touche, me touche.
On frappe à la porte. Amélie fait, entrez. Entre le domestique avec la boisson. Il y a 3 verres, une bouteille et des amuse-gueules. Il leur apporte. Et fait le service.
Merci.
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 Une fois qu'il a fait le service, il s'en retourne.
Ils boivent en silence et croquent quelques gâteaux salés. Puis Auguste demande à Carole, « Où voulez-vous en venir ?» Elle lui dit, « Mais voilà, les fils de mon mari sont un peu mes enfants. » Auguste lui dit, « Oui, si vous voyez une mère comme ça. » Elle continue et elle dit,
« Voilà ce qui touche mes enfants. De mon mari me touche beaucoup. Il y en a un de ses fils qui fait beaucoup parler de lui. On jauge beaucoup sur lui. »
Auguste lui demande, « Qui est-ce ?»
Elle lui répond, « C'est Frédéric.
Je croyais que c'était l'autre. Et l'on jauge pourquoi ?»
Elle lui dit, « Ce n'est pas très grave, mais tout de même, l'on dit qu'il est très souvent avec son ami Gilles, que ça fait bizarre qu'ils soient toujours ensemble. Il serait souhaitable, d'après moi, c'est d'éviter qu'on les voie tout le temps comme ça. Il pourrait mieux se voir parce que ce serait pas bien pour son avenir, tous ces bruits. Qu'ils se voient moins. Et qu'ils aient d'autres amis. »
Auguste lui dit, « Je ne vois pas ce qui gêne la famille que notre petit-fils fréquente un ami. »
Elle lui fait, « Il n'en fréquente qu'un. On pense, comme ils se voient toujours ensemble, que le jeune homme a des goûts spéciaux. C'est pas bien pour la famille qu'un de ses membres ait une telle réputation. »
Amélie lui dit, « Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Mon ami, je trouve qu'ils sont trop souvent ensemble. »
Auguste lui dit, « Bien, je lui dirai qu'ils se voient moins et qu'ils fassent attention. »
Amélie fait les gros yeux et lui dit, « Tu admettras que ton petit-fils sait comme si du moment qu'il se cache. »
Auguste agacé lui dit, vous n'allez tout de même pas jouer aux puritaines tout de même, toutes les deux. Ça m'arrange que Frédéric voie Gilles. Et pour parler franchement, il fait moins de mal en étant avec lui qu'avec son frère, n'est-ce pas? Je parlerai à Frédéric comme je l'entends, et la discussion sur ce sujet est close.
Auguste dit,
elle est culottée de parler de moralité, elle qui couche avec le fils de son mari. De quoi elle se mêle, celle-là ? lendemain soir, lorsque Frédéric entre chez ses grands-parents, son grand-père l'attrape dans le couloir et lui dit
« Viens avec moi dans mon bureau, j'ai à te parler. »
Son grand-père qui le mène à son bureau.
Entre. Va t'asseoir.
Il va s'asseoir en face de son bureau, dans un fauteuil. Et le grand-père s'assoit à son bureau.
Le grand-père lui dit une fois assis,
« Voilà, les gens étant ce qu'ils sont, et comme nous vivons en société, on ne peut pas les oublier. Tu es toujours avec ton ami Gilles, ce n'est pas bien d'être toujours avec la même personne. Il faudrait c'est que tu aies d'autres amis et que tu fréquentes des jeunes filles aussi. Tu comprends? C'est mieux. »
Frédéric a compris. L'on jase sur eux parce qu'ils sont toujours ensemble et on les prend pour deux PD. Il lui répond
« Oui ?»
Le grand-père lui dit « Je te dis pas de ne plus voir ton ami, mais de le voir moins souvent et d'avoir d'autres relations, surtout féminines. Si tu as une petite amie, personne ne dira plus rien. Fais attention, si plus tard l'on enquête sur certains de tes goûts, cela risquera de te nuire. »
Frédéric lui dit
« Oui ?»
Il se rend compte et se dit qu'il ne veut pas que l'on dise de lui qu'il est la femme de Gilles.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.